recevons en ce moment Marthe Saint-Laurent, auteure du livre La vérité, la dire ou la taire. Justement, on la reçoit ce matin pour parler de ce livre-là, mais je suis sûr que la discussion va divaguer sur plein d'autres sujets reliés à la vérité, justement, qui est si importante à notre époque actuellement. Bonjour, Madame Saint-Laurent.
Oui, bonjour Éric.
Alors Marthe, vous êtes une animatrice radio, vous êtes une chroniqueuse télé ainsi qu'une journaliste et vous êtes une coach de vie. Vous êtes une auteure véritablement passionnée par l'écriture, si bien que vous avez publié 21 ouvrages dont plusieurs sont consacrés aux relations interpersonnelles. Précédemment, vous avez fait des études en journalisme et vous avez suivi des formations en psychologie et en coaching. Aujourd'hui, justement, on va en parler de ce livre, La vérité, la dire ou la taire, votre dernier livre. Alors, votre dernier livre s'appuie grandement sur les relations interpersonnelles et sur la question de la vérité et du mensonge. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce sujet-là qui peut paraître tellement vaste?
C'est vrai qu'il est vaste. Je me suis aperçue, Éric, lorsque j'ai débuté la rédaction, que la tâche était quand même assez grande. En fait, j'ai eu envie de parler de la vérité à cause d'un souper ou grâce, je devrais dire, un souper entre amis, où, on a commencé à parler d'un cas de conscience d'une amie, et puis on s'est aperçu que on n'était pas d'accord du tout à savoir s'il fallait dire ou s'il fallait taire ce que l'amie en question avait bu. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire avec ça. Et le sujet a mûri quand même pendant 6 ans en moi. Et je me disais, il n'y a rien qui existe sur la vérité. Puis au quotidien, on est toujours confronté avec le mensonge, la vérité. Donc, il faut absolument parler de ça. Et puis, à travers justement mes émissions radio, j'ai fait des émissions sur, entre autres, l'inceste et tous ces grands secrets familiaux. Et c'est très intéressant. Et puis, entre ça, il y a eu beaucoup de publications de livres, justement, Madame Kouchner en France, dont le frère a été abusé par le beau-père et tout ça. Donc, je me dis, c'est le secret dans les familles, c'est depuis toujours. Et est-ce qu'on doit le dire ou le taire? Est-ce que les conséquences, en fait, sont plus grandes que le secret qu'on garde en nous? Alors, c'est tout ça que je traite dans cet ouvrage-là.
Et dans cet ouvrage-là, justement, vous utilisez de nombreux témoignages, en fait. Est-ce que tu penses que c'est une bonne manière d'aider les personnes qui se retrouvent dans des situations similaires de comprendre, justement, est-ce que l'approche par le témoignage, au lieu d'effectuer des grandes envolées plutôt scientifiques, c'est quelque chose qui va aller toucher les gens plus facilement pour ce type de sujet-là?
Oui, absolument. Mais de toute façon, dans un guide pratique, on retrouve toujours des passages. En fait, ce sont pas des témoignages, ce sont des noms fictifs, ce sont des situations aussi fictives qui ont été modulées pour aller avec la théorie, justement, que j'avance. Donc, effectivement, lorsque je parle d'inceste, bien sûr que les femmes ou même les hommes qui ont vécu de l'inceste vont se reconnaître à peu près dans le scénario. Donc, je n'ai pas réinventé la roue. Mais ce ne sont pas des témoignages justement parce que je devais ou je voulais vraiment que ça colle à la théorie que j'amenais. Mais effectivement, dans un guide pratique, il est toujours préférable d'amener des exemples. Bon, dans certains cas, il y en a qui utilisent le témoignage. Moi, c'est plus un scénario que j'ai créé. Donc, oui, ça aide les gens parce que des fois, la théorie, ça devient un peu, je dirais pas ennuyeux, mais c'est comme si on comprend les mots, mais on n'arrive pas à voir l'image, tandis que quand on arrive avec un scénario ou un exemple, il y a des choses qui se rapprochent à ce qu'on a vécu, et là, on est capable de s'identifier avec tout ce qu'on vient de lire. Donc oui, c'est vrai que ça aide, et puis en même temps, ça nous fait voir qu'on n'est pas les seuls, en fait, à vivre des choses comme ça.
Est-ce que tu trouves
que le côté...
Oui. Non, allez-y, terminez, oui.
Ben en fait, c'est qu'on est capable de s'identifier, c'est comme au cinéma ou au théâtre. Vous savez, quand on va voir un film ou une pièce de théâtre, puis qu'on se reconnaît, admettons, dans le personnage principal, ben c'est vrai qu'on va adhérer davantage, et ce film-là, on va développer comme une espèce d'attachement. Donc, c'est important, puis on se sent moins seul, on se dit, bon, ben tiens, je suis pas la seule ou le seul à avoir vécu ça. Donc, ça nous permet de nous identifier associée à quelque chose que souvent on dit, hey, c'est lourd, puis on pense qu'on est, on pense souvent qu'on est le seul ou la seule à avoir vécu ça. Et quand on lit des scénarios comme ça, on se dit, tiens, ben, il y en a d'autres, même si ce sont des scénarios fictifs, il n'en demeure pas moins que, comme je vous dis, il y a plein de gens qui vont se reconnaître.
Et est-ce que, ben, vous, t'as parlé de d'auteurs en France que tu t'es inspiré, que t'as lu, tout ça. Je me suis commencé à me poser des questions et tout ça, et je me demande, est-ce que tu trouves que les Québécois ont un rapport différent à la vérité et aux mensonges que d'autres communautés dans le monde?
Oui, en fait, chaque culture a son rapport à la vérité et au, oui, chaque culture, il y a aussi la religion, mais il y a aussi le mode d'éducation. On va regarder, par exemple, les Américains ont une relation au mensonge et à la vérité qui est différente d'ici des Québécois et même, je dirais, les Québécois par le reste des Canadiens, et puis après, en France aussi, ça s'exprime autrement. Il y a un côté en France qui, bien qu'ils soient très directs dans leurs propos de tous les jours, il y a quand même énormément de non-dits au sein des familles parce que l'éducation est plus rigide. T'sais. On est moins dans comme ici, on explique le pourquoi du comment à l'enfant de 2 ans. En France, c'est non, tu fais pas ça, c'est fini. Bon, c'est vrai que ça tente à changer, mais il reste que la manière, l'éducation, les cultures. Après, on regarde aussi la situation sociale. Bon, les gens qui sont plus, qui sont plus fortunés vont avoir un côté beaucoup plus discret et secret. Il y en a beaucoup qui sont malades, même les enfants ne le savent pas, même si c'est des maladies graves. Donc, il y a quand même aussi le statut social qui fait en sorte que, encore là, notre vérité et le mensonge est traité de manière et vécu de manière différente.
Et j'ai vu sur ta page tout à l'heure que tu avais aussi écrit un livre aussi sur la cyber-intimidation. Me demandais, est-ce qu'à l'ère de justement des réseaux sociaux, est-ce qu'on a un rapport aussi qui change avec la vérité? Parce qu'il y a des gens justement, comme le titre de ton livre qui est « La vérité, la dire ou la taire », ben à une époque, on se disait « bon, on va la taire, la vérité », mais là maintenant, il y a des gens qui sont prêts à écrire leur vérité à eux, mais publiquement sur les réseaux sociaux, et là, ça devient de la cyber-intimidation. Comment ça se croise, tout ça?
Oui, c'est intéressant le parallèle que vous faites, Eric, parce qu'effectivement, dans justement la volonté de dire la vérité, et vous avez bien soulevé qu'il s'agit plutôt de notre vérité, parce que même si c'est un événement qu'on a vécu, c'est le souvenir qu'on en garde et le côté émotionnel qu'on va nourrir envers cet événement-là qui va faire que notre vérité va être différente, puis même d'une période à l'autre de notre vie, d'un jour à l'autre de notre vie, donc c'est ça reste toujours notre vérité, même s'il y a un événement réel qui s'est passé. Donc, notre vérité, c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, elle est facile à dire, parce qu'il n'y a plus de recul. D'une part, il y a aussi le côté anonyme. Donc, souvent, c'est pas le nom des gens. Donc, on dit et on exprime la frustration, le désaccord, la colère. Donc, ça sort. Et puis, bon, à l'époque que je donnais des conférences dans les écoles, je disais aux jeunes, écoutez, si vous étiez devant la personne, est-ce que vous diriez tout ça, tu sais? Et évidemment, la réponse est non. Donc, il y a tout le côté anonymat, d'une part, qui est derrière l'écran, donc on se pense protégé. Mais il y a l'autre côté aussi pour les gens, je pense à certains journalistes qui sont attaqués et même qui répondent de manière virulente. Il y a ce côté-là aussi d'être confronté ou d'être en confrontation, mais toujours de manière indirecte. Donc, c'est assez, c'est plus facile en fait d'être d'intimider ou d'être agressif et frustré derrière un écran, alors que la réponse, oui, c'est, on va me dire, oui, mais c'est instantané, Marc, c'est vrai que c'est instantané, mais on n'a toujours pas le facial, la personne, c'est-à-dire les expressions du visage, on n'a pas le ton non plus, donc ça reste des écrits, ça reste simplement des mots. mots. Et le danger, c'est justement, c'est d'aller une seule interprétation. Parfois, il y a des choses qui sont écrites, qui sont pas nécessairement virulentes, mais selon notre façon, nous, d'être, on se lève un matin, on n'est pas de bonne humeur, on reçoit un message, et puis on va l'interpréter la façon comment nous, on se sent. Donc, il faut toujours faire attention aux écrits. Et évidemment, moi, je recommande d'éviter de mettre des qualificatifs. Donc, puis toujours essayer de parler au jeu, tu sais, de dire je suis pas d'accord avec ce qui était mis, ou moi je pense que ou je vois la chose de telle façon. On dit quand même, on exprime quand même ce qu'on pense, on exprime quand même notre vérité, notre vision des choses, sans agresser et démolir l'autre. Donc après, on tombe dans le savoir-vivre, puis tout ça, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ne favorisent pas ça présentement. Et la situation sociale non plus, parce que les frustrations sont quand même s'accumulent au fil des mois. On comprend bien que les gens sont de plus en plus en colère pour toutes sortes de raisons.
Et en terminant, Marthe, à qui s'adresse ce livre, selon toi, dans ta création de ton livre, lors de la rédaction, à qui voulais-tu l'offrir, par exemple, en premier, là?
Ben, et c'est sûr que j'aime pas dire ça, mais le livre s'adresse à tout le monde. Parce que, comme j'expliquais un peu plus tôt, tous les jours, on se demande si la personne qui nous dit, mettons, on a un rendez-vous avec, elle annule à la dernière minute. On voit tout le monde, le commun des mortels va dire, si tu penses, ça y tente plus, puis elle veut pas mal dire. Ou bien, donc, c'est bon. Fait que c'est des petites choses, mais on est tous confrontés avec des vérités, des mensonges. On regarde le regard de la personne, on se voit vrai ce qu'elle me dit, ou son histoire ne tient pas bien ben la route. Donc, on essaie de savoir la vérité. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens, et tout le monde vit avec un cas, deux cas, trois cas, cinq cas de conscience, à intensité plus ou moins. Au début, je parlais de l'inceste, on peut parler aussi de viol, on peut parler de maltraitance physique, on peut parler de tromperie. Qu'est-ce qui arrive dans le couple quand on trompe l'autre ou on croit que l'autre nous trompe? Donc, on est tout le temps confronté à ça, c'est les cas de conscience, on en a tous. Qu'il soit petit ou grand, je sais pas. Une amie vous dit, je vais te dire un secret, mais faut que tu te gardes. Tu dis oui, oui. Elle te dit secret, puis là, tu t'aperçois que, wow, c'est grave, puis il faudrait que tu en parles. Mais si tu n'en parles pas, ça devient un cas de conscience. Et si tu en parles, ça devient aussi un cas de conscience parce que tu as trahi ta parole. Donc, à qui on est, envers qui on est intègre? Alors, c'est de grandes questions qu'on n'est pas toujours conscient qu'on se pose. Mais vous savez, Eric, que les cas de conscience rendent les gens malades. Quand on garde les secrets en nous, quand on a vécu quelque chose de grave, qu'on ne le dit pas, à un moment donné, comme plein de psychiatres disent, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, si on ne le dit pas, si on ne se libère pas, ben souvent ça va se tourner en maladie. Après, on fait attention. Je ne sais pas que tous les gens qui sont malades ont des cas de conscience. Il faut faire la part des choses. Mais c'est vrai que souvent, il y a des maladies qui sont issues en fait de malaise intérieur, qui sont reliées soit à des mensonges ou à des vérités non nommées.
Eh bien, je pense que justement, on va pouvoir déceler un peu le mystère de tout ça en allant se procurer votre livre « La vérité, la dire ou la taire » aux éditions Ici. Marthe Saint-Laurent, merci beaucoup pour votre temps ce matin et pour cette belle discussion qu'on a eue ce matin sur la vérité et tout ça.
Merci beaucoup, Eric. Ça a été un pur plaisir.
Ben, je vous souhaite de passer une très belle journée, Marthe.
À vous aussi.
Merci beaucoup. 8h44 de notre côté. Bon, on continue.